Quelques mots d'introduction au texte du livre des juges que nous allons lire et que je vais essayer d'expliquer un peu. C'est un texte difficile parce que il parle de Jephté qui fait une promesse et voilà que, à l'issue de cette promesse, eh bien, le prix à payer, c'est la vie de sa fille. Pendant longtemps, ce texte a fait partie de ceux que je n'aimais pas beaucoup, dont je ne savais en fait pas très bien que faire. Alors par chance, cet été, avec mes collègues pasteurs, on a choisi de se lancer dans la lecture, et j'espère la compréhension, de plusieurs de ces textes difficiles. Juste encore avant d'entrer dans la lecture de la fin de cette histoire, je vais vous raconter le début, c'est assez long, le chapitre fait 40 versets, on va lire les 12 derniers, les premiers, je vais un peu vous les raconter. Jephté, on parle de Jephté comme étant un petit enfant né en Galaad. Alors Galaad, ça se trouve aujourd'hui en Jordanie. Ça se trouve à peu près à la hauteur du lac de Tibériade, donc du côté, enfin, autre que ce qu'on a l'habitude de penser à Israël pour aujourd'hui, du Jourdain. À peu près le même genre de collines, vous avez vraiment des collines de part et d'autre, et une faille avec au milieu le Jourdain, puis plus bas la mer Morte, puis ça va jusqu'au Kenya. Donc ça va très loin, cette faille. Et on se rend compte, en lisant la Bible, que les habitants n'étaient pas toujours seulement d'un côté ou seulement de l'autre du Jourdain. Voilà, donc Jephté est, par rapport à aujourd'hui, du mauvais côté, ou de l'autre côté du Jourdain. On nous dit que, assez rapidement, sa situation d'enfant devient difficile. Parce que son père épouse une autre femme, déclare que la mère de Jephté était prostituée. Les autres enfants qui naissent disent « Nous, on aura l'héritage, et toi, et pas toi. » Donc, l'enfance et la jeunesse de Jephté va être une enfance en marge. En marge de ses proches. Il est là, mais on lui fait bien sentir qu'il n'aura pas les mêmes droits. Puis, quand Jephté est devenu grand, adulte, la situation politique, économique devient un peu tendue. Et alors, les voisins, toujours de ce même côté du Jourdain, de Moab, aujourd'hui on dirait au sud de Amman, en Jordanie, donc à deux journées de marche de Galaad, eh bien ses voisins cherchent à faire la guerre à Galaad. Et quand on cherche à faire la guerre, on emploie en général des mauvaises raisons, pas tout à fait objectives, parce qu'on a envie. Et alors tout ce chapitre, le début du chapitre, c'est un dialogue entre les anciens de Galaad qui disent « Mince de mince, on n'a personne pour être notre chef de guerre, comment est-ce qu'on va s'en sortir ?» Ils se souviennent que Jephté est un type assez costaud, solide et intelligent, même s'il a été déshérité. Et alors ils font une démarche auprès de Jephté pour lui dire « Veux-tu être notre chef ?» Puis Jephté dit « Mais doucement les amis, vous m'avez éjecté, maintenant vous me voulez, il faudrait savoir. » Finalement, Jephté accepte, avec la promesse qu'il sera vraiment le chef, y compris après la guerre, et s'engage un long dialogue avec Moab sur les raisons de faire la guerre. Pourquoi vous voulez ? Ah, parce que Israël a tout pris. Mais non, c'est pas vrai, Israël n'a pas tout pris. Mais si, mais non. Enfin, il y a un long va-et-vient de dialogue comme ça pour savoir si vraiment Israël a pris quelque chose ou Israël n'a pas pris. Et on arrive au moment où Reynold va vous faire la lecture.
Je n'ai pas cette version biblique où Reynold va faire la lecture, mais enfin, je lirai quand même. Donc, depuis le verset 29 de Juges 11. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Il traversa Galaad et Manassé. Il passa à Mitspé de Galaad, et de Mitspé de Galaad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, Quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephté marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Aroer jusqu'à Minit, espace qui renfermait 20 villes, et jusqu'à Abel-Kéraïm. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici, sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'errai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, la Galadite, 4 jours par année.
Bon, vous voulez que je vous dise quoi maintenant de cette histoire? Parce que, franchement, quand on la lit juste ainsi, soit c'est du théâtre, et c'est dramatique, mais après le théâtre, on sort en se disant, bon, ben, il y avait peut-être un message, la pièce était belle, et puis ça faisait du bien d'avoir un drame. Soit c'est une histoire réaliste, et alors, en tout cas personnellement, elle me dérange profondément. Alors la piste que je vous propose, non pas pour sortir heureux de cette histoire, mais pour y trouver du sens, c'est un peu la même piste que vous pouvez avoir quand vous lisez un roman policier et que vous vous trouvez comme lecteur à la suite de l'enquêteur, où vous vous questionnez. Il y a mort, il y a crime. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez à la recherche des indices, et vous cherchez des preuves, et vous cherchez à comprendre. Et dans certains romans policiers, enfin ceux auxquels je fais allusion, parfois il y a des choses qui ne sont pas à leur place. Parfois il y a des indices qui manquent, si j'ose dire. Parfois, il y a des choses qui devraient être là et qui n'y sont pas. Et l'enquêteur est ainsi aidé pour se dire, en fait, c'est par l'absence de certains éléments qu'il va réussir à remonter le fil de l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est un peu le chemin que je vous propose. Parce que ce récit, apparemment, est bien construit. Oui, et puis en même temps, il amène à un drame avec la mort. C'est quand même violent, un égorgement. Un père égorge sa fille au nom d'une promesse faite au Seigneur. Qu'est-ce qui manque dans cette histoire pour que on comprenne un petit peu mieux? Alors je vais commencer par vous parler des sacrifices humains dans la Bible. D'abord, il y en a pas mal. Il n'y en a pas qu'un ou deux, il y en a toute une série, même si ce sont en général des textes qu'on ne lit pas volontiers le dimanche matin à l'église. Cela veut dire que le fait de faire un sacrifice d'un humain était non pas une joie ni une habitude, mais était quelque chose qui avait du sens dans l'Antiquité. Chaque fois qu'une crise importante arrivait, chaque fois qu'on se disait « la crise est tellement grave, on ne sait pas comment s'en sortir », le sacrifice humain était une des hypothèses, pas la seule, mais un des moyens recherchés pour essayer de s'en sortir. Comment ? Dans cette époque de l'Antiquité, on pensait que quand quelque chose était vraiment difficile, il fallait payer le prix. D'ailleurs, on pense encore ça aujourd'hui parfois. Que pour apprivoiser les divinités, aujourd'hui on dirait pour changer le cours du temps, pour aller un peu dans un autre sens, eh bien, il faudrait payer un prix cher, montrer que à nous, ça coûte. C'est pas simplement une petite prière, mon Dieu, Seigneur, pour que ça aille mieux. Je vais montrer que ça a du prix pour moi, ce que je souhaite, et que je suis prêt à payer un prix. Le sacrifice humain est ce prix à payer, enfin, un de ces prix à payer. Lorsqu'on offre, non pas un esclave inconnu qu'on méprise, mais quelqu'un de sa famille, ou lorsqu'on est roi, on offre un de ses enfants. Et ça, vous avez des récits dans la Bible de rois d'Israël qui le font. Ils ne sont pas nombreux, d'accord, mais il y en a. Qui offrent, dans un temps où ils pensent être sans issue, sans sortie, pour sauver leur peuple. Il y a par exemple le grand-père du petit roi Josias, enfin je dis petit parce qu'il est devenu roi quand il était petit, mais il a grandi aussi après. Donc le grand-père de Josias, dans des circonstances économique et politique insoluble, s'il ne faisait rien, enfin il pensait, eh bien son peuple, donc Israël, allait être envahi, déporté, massacré. Il s'est dit, j'aime mieux montrer que le salut de mon peuple a du prix pour moi, je sacrifie un de mes enfants. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en faisant ce geste-là, non pas en cachette, mais publiquement, ça a de l'effet. Lorsque le grand-père de Josias a fait cela, le sacrifice d'un de ses enfants, eh bien, les ennemis se sont dit, « Ouh là 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 là, ils sont prêts à aller jusque-là pour résister, on fait un pas en arrière. » Et le grand-père de Josias a sauvé son peuple pour 50 ans. Même si ensuite, la tradition biblique dira que le grand-père de Josias était un mauvais roi. Ça, c'est ce que le livre des Chroniques dit. Mais les habitants du temps du grand-père de Josias ont vécu un soulagement, parce que pendant un temps, ils n'ont pas été déportés, ni assassinés, ni éliminés. On a d'autres récits dans la Bible qui parlent aussi de sacrifice humain. Par exemple, une petite citation qui est un peu du même ordre. Quand le roi de Moab, à un autre temps que l'histoire de Jephté, vit que la bataille était perdue, il prit son fils, premier-né, celui qui devait régner à sa place, et il l'offrit en sacrifice sur la muraille. Il y eut grand trouble chez les Israélites ennemis devant, qui rentrèrent chez eux. Donc voyez, c'est pas simplement entre guillemets barbare, bien sûr que ça l'est, mais c'est plus que ça. C'est une manière de montrer jusqu'où on est prêt à payer un prix, jusqu'où on est prêt à aller pour résister, pour ne pas se laisser faire par la crise ou le problème, et cela peut, pas obligatoirement, peut impressionner l'adversaire. On sait peu de choses sur comment la Bible a été écrite. On sait deux, trois petites choses. On sait, par exemple, que l'histoire de Jephté et des juges a été beaucoup, beaucoup méditée à l'époque du roi Josias. Donc, deux générations après que le peuple d'Israël ait vécu aussi des sacrifices humains pour sortir des problèmes. Et on sait qu'à l'époque du roi Josias, on a relu l'histoire ancienne et on a interprété cette histoire pour dire, ben voilà, nos ancêtres ont bien agi, moyennement ou mal agi. Et à l'époque de Josias, sortent des paroles qu'on a dans la Bible aussi, qui disent ceci. Il n'y aura chez toi personne qui fera passer par le feu son fils ou sa fille, il sera en abomination devant le Seigneur. Passer par le feu, c'était l'autre manière d'offrir en sacrifice que égorger. Mais en général, quand on était aimable, on égorgeait d'abord avant de brûler, si j'ose dire. Si je continue la piste de qu'est-ce qui est absent dans le texte et l'histoire de Jephté, ou à quoi pouvait nous faire penser cette histoire si on était, par exemple, à l'époque de Josias, où on n'avait plus envie de suivre cette tradition, mais elle existait encore, et des gens se demandaient si, en cas de gros problème, faut-il encore ou ne faut-il pas le faire ? Eh bien, au moins deux histoires étaient connues des gens de l'époque de Josias, deux histoires que nous connaissons aussi aujourd'hui. La première, elle n'est pas biblique du tout, c'est Iphigénie. Vous connaissez sûrement l'histoire de la guerre de Troie. Et puis voilà que Agamemnon, il envoie ses soldats, mais mince de mince, les vents sont contraires et les bateaux n'avancent pas. Et au lieu d'aller vers Troie, les bateaux restent en Grèce parce que les vents sont contraires. Alors un mage arrive en disant à Agamemnon, qui est le roi des Grecs, bah, « Sacrifie ta fille et tu verras, après ça ira bien. » Et Agamemnon fait semblant d'être d'accord. Et Agamemnon dit « Ok, j'organise tout ça, mais laisse-moi juste un petit peu de temps. » Il signale cela à sa fille. Et quand elle se sent piégée, eh bien Agamemnon use d'un subterfuge pour ne pas avoir besoin de l'éliminer. Ce qui fait, je raccourcis un peu l'histoire parce qu'il y a encore d'autres épisodes, hein, mais ce serait trop long pour maintenant. Mais vous pouvez aller au théâtre et lire Iphigénie. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire d'Iphigénie, c'est qu'un roi se trouve amené à offrir sa fille en sacrifice pour résoudre un problème de guerre, de politique et d'économie, pour apaiser les vents et les divinités, en fait, rendre la situation favorable. Et en l'occurrence, ce Agamemnon essaye de ne pas faire cela. Autre histoire très connue, sûrement de vous aussi, c'est Abraham avec son fils Isaac. Que fait Abraham ? Au début, il entend une parole qui lui dit, Dieu lui dit, va sur une montagne, prends ton fils, offre-le en sacrifice. Et que fait Abraham ? Il y va. Vous connaissez la suite de l'histoire ? Un ange intervient et lui dit, mais non, je t'offre un mouton à la place, tu verras, ça sera tout aussi bien. Ce qui est intéressant, quand on lit le texte tout tranquillement et attentivement, l'histoire d'Abraham et Isaac, c'est que dans cette histoire-là, il y a trois mots différents pour dire Dieu. Comme s'il y avait trois dieux différents. En français, c'est aplati, vous avez Dieu ou le Seigneur ou l'Éternel, puis vous croyez peut-être que c'est la même chose. Eh bien non, c'est pas la même chose. C'est pas pour rien que la Bible donne des noms différents à Dieu. Comme s'il avait plusieurs facettes, ou lesquelles ? Le premier Dieu qui dit à Abraham d'aller faire ce sacrifice, c'est un nom qui n'existe quasiment pas ailleurs dans la Bible. C'est un nom qu'on devrait traduire par « le Dieu que je me suis fait ». Parce qu'il a un article, puis ensuite le mot « Dieu ». Donc, si vous l'entendez ainsi, c'est le Dieu qui dit « pourquoi pas faire des sacrifices quand il y a des problèmes ?» Ce Dieu-là, il dit à Abraham, vas-y et fais le sacrifice de ton fils. Et comme Abraham est dans cette mentalité, c'est vrai, c'est possible, c'est pas drôle, mais c'est possible. Eh bien, il suit ce Dieu-là. Et il faut l'intervention plus tard du Dieu qui a un nom, qu'on appelle l'Éternel dans nos Bibles ou le Seigneur, le nom qu'on ne prononce pas, celui qui plus tard sera aussi le Père de Jésus-Christ, ce Dieu-là, enfin ce nom-là de Dieu, dit « Ah non, moi je ne demande pas de sacrifice. Moi je demande autre chose. » Bien, après ce long détour de quelques histoires autour des sacrifices, d'humains, etc., on peut revenir à Jephté. Qu'est-ce qui manque chez Jephté dans son histoire? Par rapport aux autres, par rapport à Iphigénie, Jephté, il est enfermé dans sa promesse. Alors que dans l'histoire d'Iphigénie, Agamemnon, il ruse, il joue, il négocie. Il dit, bon, d'accord, mais je vais essayer de faire autrement. Jephté, pas. Il y a donc déjà une interpellation, parce que cette histoire d'Agamemnon et Iphigénie, si elle n'est pas dans la Bible, elle était dans tous les journaux et tous les télés et toutes les séries télé de l'époque, façon de parler. Elle était connue. Par rapport à Abraham et Isaac, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est absent dans l'histoire de Jephté? Eh bien, c'est le dialogue avec Dieu. Dans l'histoire de Jephté, il n'y a aucun dialogue. Aucun. Qu'est-ce qu'il y a? Dans l'histoire de Jephté, il y a un garçon qui a une vie difficile, qui grandit, qui se fait chasser, qui se fait rappeler, qui devient chef. Tout à fait d'accord. Et ça peut arriver à beaucoup de nous, où on se fait choisir pour un travail, rejeter, puis reprendre, enfin bon, que sais-je. À un moment donné, Jephté devient chef. Il a de nouveau son job, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'il fait, Jephté, avec Dieu? On nous dit, la puissance du Seigneur vient sur lui. Ben, grand bien lui fasse, et tant mieux. Mais qu'est-ce qu'il fait de cette puissance? Il fait un vœu irresponsable, dans le sens « pas demandé ». À aucun moment, Dieu lui dit « Je te demande, je te suggère de faire un sacrifice, comme ça tu seras plus fort dans ta bataille. » Dans l'histoire d'Abraham, même si ce n'est pas le Seigneur, c'est quand même le Dieu qu'il s'est construit. Qui demande à Abraham d'aller faire cela? Chez Jephté, rien. Dieu n'intervient pas. Dieu est absent. Et c'est intéressant d'avoir dans un récit de la Bible un Dieu qui est utilisé, je fais un vœu au nom du Seigneur, mais un Dieu qui ne parle pas. Un Dieu qui est absent. Alors, vous comprenez, on peut commencer avec ça à tirer du sens. Non pas pour dire que c'est une belle ou une moche histoire, mais à se demander, pas seulement pourquoi cette histoire nous est racontée, mais aussi en quoi elle nous sert à quelque chose. La question que j'écrivais en pensant à aujourd'hui, c'est « Faut-il tenir toutes les promesses, même celles qui sont faites au nom du Seigneur ?» Je ne sais pas si vous faites des promesses au nom du Seigneur. Et par exemple, ça me fait penser à cette histoire de Luther, quand il a eu très peur de l'orage, très peur de mourir, et puis qu'il était moine, enfin pas encore, pas tout, enfin en train, prof plutôt, « Si !» je m'en sors de cet orage, je deviens moine. Et il l'est devenu. Bon, après, il est sorti, puisqu'il est devenu réformateur. Mais parfois, quand on est en grand danger ou en grand problème, on se fait ce genre de vœux et de promesses. Même au nom du Seigneur, faut-il les tenir ou ne faut-il pas? Je n'ai pas la réponse. Mais la question, elle est dans le texte, avec Jephté. La question, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait quand on a cru à quelque chose, quand on s'est engagé avec la vision de Dieu que nous avons, et que le prix à payer est la vie de quelqu'un, de sa fille ou de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on fait? On la tient, cette promesse? Ou bien comme Abraham, on négocie? Ou comme Agamemnon, on ruse? Ou bien comme Jephté, on va droit dans le mur? La question, elle est là pour nous. Ça veut dire, pour moi, cette histoire de Jephté et de sa fille, elle nous renvoie à quelle représentation de Dieu nous avons. Est-ce que vous croyez en un Dieu qui est complaisant, qui finalement pardonne tout? Est-ce que vous croyez en un Dieu qui est inexistant, absent, une idée qu'on se fait pour résoudre nos petits problèmes ou conforter notre vie? Est-ce que votre Dieu, c'est un Dieu qui, quand vous faites des fautes, vous punit et fait la comptabilité de vos fautes pour dire si à la fin vous êtes du bon ou du mauvais côté. Il est comment votre Dieu? Parce que l'histoire de Jephté nous montre que la représentation que Jephté a de son Dieu l'amène à mettre sa fille à mort. Moi, je trouve ça dramatique. Moi, je trouve que ce n'est pas ce que Dieu demande. Mais qui suis-je pour oser juger Jephté? Définitivement, j'en sais rien. Je me situe en tant qu'être humain parmi vous, à avoir ce texte dans la Bible, et à réfléchir, et à se demander, dans le fond, oui, quel Dieu? Encore un petit mot pour élargir la question. Le philosophe Hans Jonas, dont vous avez peut-être entendu parler, s'est énormément préoccupé dans les années 1930 à 1945 de la question de toutes ces violences et ces millions de morts, en disant « Quel Dieu peut permettre cela ?» Et il en a écrit un petit livre qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz ». Et il réfléchit. Par certains côtés, il rejoint le texte de Jephté. Par d'autres, il cherche aussi. Et il dit, après Auschwitz, on ne peut plus croire en un Dieu qui va intervenir comme ça, du haut de sa grandeur, et puis nous sortir les uns les autres des problèmes. Parce que s'il ne l'a pas fait pour des millions, il n'y a aucune raison qu'il le fasse pour quelques-uns. Autre petite phrase pour réfléchir si vous aimez le foot. Récemment, il y a eu ce tournoi, et dans un des matchs, un événement intéressant. Le Ghana contre l'Uruguay. À quelques minutes de la fin, je ne sais plus exactement, un Ghanéen marque, non, juste pas, un Uruguayen met sa main, pénalty. L'Uruguayen est expulsé, le pénalty est tiré, il est raté. Au bout du bout, c'est l'Uruguay qui est qualifié. Comment est-ce qu'on va comprendre cette histoire ? Quand on est Ghanéen, on dit « c'est horrible, Dieu nous a abandonnés, c'est la triche, ils n'ont pas respecté les règles du foot et tout ça. » D'accord ? Si vous êtes Uruguayen, c'est la main de Dieu qui a fait que le prix à payer a été l'expulsion et nous avons été qualifiés. Nous sommes donc toujours renvoyés, jamais à quelque chose de tout simple, quand les problèmes sont là. Quelle représentation de Dieu avons-nous ? Moi, je crois, à la suite aussi de toute la Bible et de toutes les paroles du Christ, que Dieu ne demande jamais le prix de la vie humaine pour résoudre un problème. Jamais. Ça, c'est ma croyance. Mais le texte de Jephté est là pour nous montrer que ce n'est pas toujours aussi simple. Le texte de Jephté est là pour nous montrer que nous sommes invités à réfléchir. On a reçu un petit peu d'intelligence et nous sommes amenés à pas croire trop enfermé quand il y a une vie humaine en jeu à nos valeurs. On est invité à peut-être mettre la vie en premier. Si la toute-puissance de Dieu existe, la toute-puissance de Dieu que Jésus nous dit, c'est une toute-puissance d'amour. Et l'amour n'exigera jamais la vie de quelqu'un. Donc, quel est votre Dieu ? Voilà, j'ai fini avec ma longue histoire.